Alors, on est parti. La grande histoire. Petit résumé des fois précédentes. C'est important pour qu'on puisse lier les choses. Donc, on avait vu dans la première rencontre un monde parfait. Dieu a créé un monde parfait. Il était parfait physiquement, les animaux, les plantes, etc. Mais parfait aussi dans les relations, les êtres humains entre eux, les êtres humains avec Dieu, les êtres humains avec ce qu'on appelle aujourd'hui la planète. Donc, c'était parfait. Et puis, il y a eu le choix des êtres humains, une relation brisée. Et ça a eu des répercussions donc, sur le premier couple. La relation a été brisée. Sur la première famille, avec le frère qui tue son frère. Donc c'est tragique, mais voilà, c'est le début de l'histoire humaine. Et puis, une relation brisée aussi avec l'environnement, avec la planète. Et toutes ces choses-là ensemble ont fait que le temps a passé et ça a donné ça. Voilà, à peu près. Ça illustre l'évolution. On est passé de là à là. Il y a encore des endroits un peu comme ça, mais de moins en moins. Mais j'aime bien cette image parce que j'aime bien. Elle est horrible. Mais elle illustre bien l'état de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et puis ce qu'on a fait de ce qu'on avait reçu. Quoi. Voilà. En fait, la raison, donc, on l'avait vu, c'est que la boussole infaillible qui indiquait le bien et le mal, qui était Dieu, a été remplacé par la boussole personnelle et arbitraire de chaque être humain. Donc, jusqu'avant ce moment où Adam et Ève ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu, Dieu disait ça c'est bien et ça c'est mal. Et puis, c'était comme ça. Lors de ce qu'on appelle traditionnellement la chute, j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas, le choix d'indépendance vis-à-vis de Dieu qui a été fait par nos ancêtres, suite à, vous vous rappelez, à cette promesse qui était un mensonge, mais qui était une demi-vérité, mais qui était quand même un mensonge, vous serez comme des dieux. Alors, pas dans le sens tout-puissant qui peut tout faire, mais oui, dans le sens où chacun définit pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, au lieu d'avoir une direction commune pour tous, on se retrouve dans une situation où chacun a sa propre boussole pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et en général, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins fort, la boussole, elle indique mon intérêt, ce qui est bien pour moi. Alors, si on est un peu moins égoïste, c'est ce qui est bien pour ma famille, certains, ce qui est bien pour mon pays. Mais c'est relatif, ça change d'un individu à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on vit. Chacun décide. Et puis, bien sûr, dans une même situation, moi je pense que ça c'est bien, et puis l'autre pense que ça c'est bien, et l'autre pense que ça c'est bien. J'ai écouté avant de venir une petite vidéo postée par le fils d'ami, où il y avait un homme qui discute avec un économiste, et puis il explique pourquoi il faut de la croissance, l'autre explique pourquoi il faut de la décroissance, et puis ils ont chacun leurs arguments, et voilà, un pense que le bien est là, l'autre que le bien est là, et puis il faut faire avec, et il n'y a pas cette chose-là. Et puis finalement, ça a produit, toutes ces choses-là ont produit tout ce qu'on sait, les guerres, les conflits, les abus, la violence, les accidents, etc., etc., la pollution, notre monde. Donc c'est la conséquence de tous ces petits humains qui ont chacun leur boussole et qui disent je sais ce qui est bien, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est bien pour moi. Et le mélange de tout ça, ça produit ça. Voilà, on y est tous plus ou moins dedans de toute façon. Mais Dieu a un plan pour restaurer les relations brisées. Alors ça c'est la bonne nouvelle. Et pour restaurer la confiance. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est pas juste qu'il y ait une relation, mais une relation de confiance. Et pour ça, et là on va arriver dans le sujet du jour, il choisit un homme qui s'appelle au départ Abraham. Abraham, ça veut dire, selon les traductions, père élevé ou père révéré ou père très haut, mais dans le sens, c'est un titre un peu de dignité. Et puis Dieu lui dit, maintenant tu t'appelleras Abraham, qui veut dire père de beaucoup, père d'une grande nation, père d'une multitude. Là aussi, les traductions varient un petit peu. Donc, il passe d'être juste un grand homme pour lui à devenir celui qui va être le père d'un grand peuple. Voilà. Et on arrive dans notre texte du jour. Et puis on va refaire comme précédemment, puisque le fil du micro est limité.
Alors, l'Éternel... Vous entendez ?
Okay.
Ah, d'accord, pardon. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations, je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fils des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Tout simplement parce que Yahvé Jiré, ça veut dire Dieu pour l'Éternel pourvoira. Donc on a cette histoire qui est quelqu'un un peu particulier. particulière, avant qu'on revienne un petit peu sur ça. Juste une première chose à dire, c'est que après ces relations brisées et puis cette rupture entre l'humanité et son créateur, déjà Dieu aurait pu décider de rien faire. Ok, ben je les laisse là, qu'ils se débrouillent, hein. Je m'en vais ailleurs. Il aurait pu anéantir tout le monde, enfin, il y a plein de possibilités. Donc il décide d'essayer de rétablir les choses. Mais il n'a pas choisi une intervention qui serait comme un grand spectacle. Voilà, je vais venir, je vais vous. Hein. La façon d'intervenir de Dieu, elle passe inaperçue. Parce que nous, maintenant, quelques milliers d'années plus tard, cette histoire, elle est connue universellement, hein, c'est la Bible, etc., etc. Mais à l'époque où Dieu choisit Abraham, Abraham, c'est un bonhomme dans une ville, sur la planète, il n'y a pas les réseaux sociaux, personne ne sait qui est Abraham, on ne le connaît pas. Hein. Donc, je dirais, un observateur qui est, si ce n'est pas un voisin d'Abraham ou un de ses parents proches, il se dit, Dieu ne fait rien, et pendant des générations, Dieu ne fait rien, et pendant des générations, Dieu ne fait rien. En fait, Dieu a choisi une façon de faire qui, on peut discuter si elle nous plaît ou pas, ou si on aurait fait mieux ou moins bien ou autre chose, mais c'est celle qu'il a choisie. Et il a choisi un plan de longue haleine, c'est-à-dire pas une intervention avec une baguette magique et puis un grand projecteur et puis boum, 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 et puis c'est fait. Hein. Il a choisi un homme qui deviendra un peuple duquel viendra le Messie. Et il va faire ça sur des milliers d'années, tranquillement. On peut dire, voilà aussi, hein, on peut dire pourquoi, etc. Ça, je ne sais pas. Si vous avez des explications, elles m'intéressent. Je ne les connais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu a choisi, dès le départ, comme plan, de collaborer avec les humains. Hein. Il n'a pas envoyé des super anges. Il n'a pas créé non plus encore un hybride de super-héros qui viendrait pour fendre le mal et puis, avec ses super-pouvoirs, essayer d'établir quelque chose. Non, il prend un homme. Et là, on a quelques passages sur la vie d'Abraham, mais si vous lisez tout dans la Genèse, toute la vie d'Abraham, vous verrez qu'il est admirable par certains côtés, mais il était comme nous dans beaucoup d'autres. Hein. Pour sauver sa tête, il n'hésite pas à vendre sa femme, une fois ou deux. Enfin, il croit Dieu, mais il n'est pas sûr que ça va marcher, donc il couche avec sa servante. Enfin, voilà, il est comme nous, mais il est choisi par Dieu. Et puis, il est spécial parce qu'on va voir, il a une qualité particulière, c'est qu'il va placer sa confiance en Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on voit que dès le début, la solution que Dieu va proposer dans le temps, qui va se préciser, s'affiner, se développer, va être basée sur, en fait, rétablir une relation de confiance entre les humains et lui. Et Dieu le montre déjà dans la méthode qu'il a choisie. Hein. Il y a une doctrine que je déteste particulièrement sur notre planète et que beaucoup de gens, y compris des chrétiens, utilisent, qui dit « la fin justifie les moyens ». Et ce n'est pas ce que Dieu pense. Dieu ne va jamais utiliser un mauvais moyen pour arriver à un bon but. Il faut que le moyen soit en accord avec le but. Et si Dieu veut rétablir une relation de confiance avec l'humanité, alors il va le faire en utilisant un moyen qui est en accord avec son but. Développer une relation de confiance avec un homme, et puis avec un peuple, et puis avec l'humanité. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, excusez-moi, c'est un petit peu coincé. C'est avec les chats dans la création que j'ai des problèmes. C'est pas celui qui est coincé ici. On va revenir maintenant, parce qu'après vous allez discuter, c'est juste une introduction, dans les groupes, sur le côté quand même assez choquant de ce sacrifice avec offrir son fils. Et puis comme j'aime bien continuer de chercher, faire écouter un petit morceau, mais j'avoue que chercher une belle chanson sur la confiance, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et puis j'ai eu une autre idée, c'est qu'en fait, puisqu'on va parler d'Abraham et de son rapport avec son fils, certains diront que c'est un peu hors sujet, mais tant pis. Vous me connaissez, je suis le roi du hors-sujet. Je vais vous faire écouter un morceau où un père parle à son fils qui va naître.
T'es pas encore arrivé. Avec ta mère, on s'impatiente. Elle commence à fatiguer, et puis faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous, on communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons. Bah ouais, ça nous pendait au nez, faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà, je vois beaucoup de choses différemment. Tu m'as bousculé ma vie, définitivement. J'ai pas encore la tête que t'as, mais déjà, je te trouve beau gosse. Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter ton premier jean et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches, enfin ça changera peut-être. Je peux pas encore tout te raconter, là quand je te parle, ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né, on aura nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues, et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute. Moi je dirais que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as des mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai de ton côté. Définitivement. Je t'apprendrai à observer et à écouter les gens. Tu m'apprendras à m'inquiéter, j'espère que tu seras indulgent. Je t'enseignerai la prudence, tu m'apprendras l'incertitude. Tu m'apprendras les nuits blanches, je t'enseignerai la gratitude. Tu verras que parfois la vie c'est dur, j'essaierai pas de te le cacher. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. J'aurais envie de te protéger mais j'essaierai de pas être trop lourd. Je mettrai mon amour de fer dans une apparence de velours. Je te préviens, je fais mal la bouffe et je pourrai pas jouer au ballon. Mais je trouverai d'autres trucs à faire pour que tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère, mais pour me fâcher, faudra que je sois un peu ton père quand je te dirai d'aller te coucher. T'es pas encore arrivé mais déjà qu'est-ce que je te kiffe. Dans mon petit quotidien, t'as changé tous mes objectifs. Avant de penser à quoi que ce soit, je penserai à toi. Tu vas clairement changer mon sens des priorités. Et définitivement. Alors voilà, dépêche un peu, il reste 3 mois à galérer. Tu dois être serré dans ton pieu, faudrait que tu penses à t'aérer. Ici, il y a plein de belles choses à voir. Il y a la montagne, il y a la mer, le soleil, la lune, les étoiles, et puis les yeux de ta mère. Allez mon gars, dépêche un peu, j'ai envie d'entendre ta voix. On t'a même trouvé un prénom, si tu l'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai l'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Définitivement. J'ai l'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément. Ne soit jamais arrivé.
Voilà, alors ça c'est, bien sûr, c'est un père du XXe siècle, ils ne sont pas tous comme ça peut-être, mais qui est très concerné. J'imagine pas qu'Abraham avait ce genre de dialogue avec son fils, hein, on transpose un petit peu. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant parce que, vous verrez, quand on lit dans la Bible, surtout les textes historiques, on a toujours tendance à les lire comme si c'était des histoires, je ne sais pas, des choses un peu particulières, et on oublie que c'était des vrais gens, la relation entre un père et son fils, même si la culture est différente, ça se manifeste différemment, c'est quelque chose qui est fort, qui est profond, qui est... Donc ça c'est juste une petite parenthèse, je vous encourage à toujours remettre de l'humanité dans les textes que vous lisez, parce que l'histoire a été écrite comme ça, voilà. Mais derrière, c'est Abraham, même si ce n'est pas comme aujourd'hui, son fils aîné, il l'a vu grandir, et puis etc. Il en sevrait. Il a vécu toutes ces choses avec lui. Concernant cette histoire de sacrifice, qui est quelque chose qui est quand même choquant, première chose qu'on peut dire, c'est que la Bible condamne formellement les sacrifices humains, partout, tout le temps. Hein. Pourquoi Dieu a demandé ça à Abraham ? Voilà. Mais on ne peut surtout pas dire de ça que dans la Bible on fait des sacrifices humains, c'est bien, etc. Non, c'est condamné clairement, formellement, à plein d'endroits dans la Bible. Hein. L'autre petite chose qu'on peut dire, c'est que, et je crois que c'est là qu'est la clé, le test spécifique à Abraham n'avait pas pour but de tester premièrement son obéissance, mais sa confiance en Dieu. Alors, je sais que Dieu lui dit, « Ah, je vois que tu as craint l'Éternel et puis tu as donné ton fils. Hein. » Mais ce que j'aimerais souligner dans cette histoire-là, parce qu'on est toujours sur cette idée de confiance, Abraham sera appelé longtemps après, hein, dans le Nouveau Testament, le père des croyants, dans le sens, le premier grand dans cette famille-là de gens qui vont faire confiance à Dieu, même si ça paraît fou. Et La raison pour laquelle Abraham a accepté d'aller jusqu'à ce sacrifice, c'est qu'il avait cette confiance que si Dieu... Je ne sais pas s'il savait que Dieu allait l'arrêter. Moi, je ne crois pas qu'il savait. Mais il savait que Dieu pouvait lui rendre son fils. Et donc, il était prêt à faire ça. Hein. Ce que la Bible dit de ne pas faire. Donc, voilà, c'est... Mais ce qui est très, très fort là-dedans, c'est sa confiance était tellement forte qu'il pouvait faire quelque chose de complètement fou parce qu'il ne savait pas quoi, mais il savait que Dieu avait une solution. Et ça, je crois, c'est ce qu'on doit garder de cette histoire-là. Et puis, c'est ce qui est essentiel. C'est que ce que Dieu veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Alors, je sais que j'ai souvent dit d'autres fois, hein, même dans l'introduction, la foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Mais quand on fait quelque chose qu'on ne comprend pas parce que Dieu nous demande de le faire, ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un saut dans les bras de notre Père. Hein. Lorsqu'un papa dit à son enfant, saute, et puis il y a en dessous, s'il est une balançoire ou je ne sais pas, hein, l'enfant saute, il saute dans le vide, mais il ne saute pas dans le vide, il saute dans les bras de son père. Hein. Et il a cette confiance-là, et c'est ce qu'Abraham avait. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu pour qu'on comprenne mieux cet aspect-là. Et voilà, on est au bout de cette petite introduction.